Vous écoutez On lit pour vous.
Au moins 10 femmes étranglées par semaine. Un texte de Caroline Touzin, paru le 7 mai 2024 dans la presse. À Montréal, au moins 10 femmes par semaine sont étranglées dans un contexte de violence conjugale. En 2023, 551 dossiers liés à cette réalité ont été autorisés par le directeur des poursuites criminelles et pénales, DPCP. Ce n'est que la pointe de l'iceberg, selon la commandante Anouk Saint-Onge, chef de la section spécialisée en violence conjugale du service de police de la ville de Montréal, SPVM, alors que son corps policier a enregistré 6520 événements liés à de la violence conjugale en 2023. Cette infraction est minimisée et sous-dénoncée, insiste-t-elle. Un projet pilote lancé aujourd'hui vise à changer la donne et sauver des vies. Car une personne vivant avec un partenaire violent est 7,5 fois plus susceptible d'être tuée par son partenaire si elle a été étranglée par ce dernier dans le passé, selon une étude américaine datant de 2008. Cela en fait l'un des meilleurs prédicteurs d'homicide ou de féminicide, à condition d'être en mesure d'en reconnaître les signes. Le problème, c'est que cette réalité est largement méconnue des policiers, mais aussi des juges et des avocats, alerte la policière. Des mythes tenaces. La commandante Saint-Onge a pris la pleine mesure de cette méconnaissance en s'inscrivant il y a 3 ans à un atelier sur les étranglements en contexte de violence conjugale, par curiosité, lors d'un congrès aux États-Unis. Elle en est sortie stupéfaite. Je me suis rendu compte que ce que je croyais connaître, c'était des mythes, lance la policière. Parmi ces mythes, celui voulant que l'étranglement laisse des marques alors qu'il ne laisse souvent aucune blessure visible. Ou encore celui voulant que la victime se rappellera nécessairement avoir été étranglée. La commandante Saint-Onge s'est alors sentie investie d'une mission de corriger cette lacune dans la formation des policiers d'ici. D'autant qu'à la même période, le Québec était secoué par une vague de féminicides. D'emblée, la commandante nous soumet à un petit jeu questionnaire. Si la victime est en train de se faire étrangler, est-elle en mesure de crier? Lorsque la pression est exercée sur le côté du cou, la circulation sanguine sera affectée, mais la personne sera en mesure de respirer et de parler, explique la commandante. Cette pression est aussi dangereuse que les autres formes d'étranglement et peut causer une perte de conscience en quelques secondes. Saviez-vous que la victime peut avoir l'air intoxiquée alors que sa désinhibition est causée par l'étranglement, poursuit la policière. Cela explique qu'un patrouilleur peut croire, à tort, que la victime est saoule ou droguée. Et cela explique aussi pourquoi il pourrait être difficile pour cette dernière de raconter son agression. Autre mythe. La force nécessaire pour causer une occlusion des voies respiratoires ou des vaisseaux sanguins doit être grande, enchaîne-t-elle. Une pression de seulement 11 PSI est nécessaire pour causer une occlusion de l'artère carotide, explique la commandante. En comparaison, 20 PSI sont nécessaires pour ouvrir une canette de boisson gazeuse et 80 PSI représentent la pression d'une poignée de main. Et saviez-vous que la personne victime d'un étranglement n'aura souvent aucun symptôme apparent alors que sa vie peut être en danger, enchaîne-t-elle en énumérant les risques accrus d'embolie pulmonaire, d'accident vasculaire cérébral, de caillots de sang, de lésions cérébrales, tous dus à un manque d'oxygène. Une étude américaine démontre que seulement 3% des victimes font l'objet d'une évaluation médicale après l'événement. On n'a pas de raison de croire que c'est différent ici. Si bien que Des victimes sont peut-être décédées d'un AVC des mois après l'agression, sans qu'on ne fasse de lien entre les deux, souligne la policière. Une alliance SPVM-DPCP. Après sa première formation spécialisée, la commandante s'est mise à tout lire sur la question, à rouvrir des tonnes de rapports de police pour voir si, et surtout comment, les étranglements étaient rapportés, en plus d'aller suivre d'autres formations aux États-Unis. Elle s'est aussi trouvée une importante alliée au DPCP, Maître Maya Ducasse-Atti. Résultat. Le SPVM et le DPCP lancent aujourd'hui ce projet pilote qui sera déployé dans l'est de Montréal pour commencer, mais qui pourra éventuellement s'étendre à toute l'île. Ainsi, une formation spécialisée sera offerte aux patrouilleurs et aux enquêteurs, de même qu'aux procureurs du DPCP et à certains organismes qui viennent en aide aux victimes de violences conjugales. Une pathologiste judiciaire leur détaillera les dangers des étranglements et les signes à ne pas négliger. Je n'aurais jamais pensé demander à une victime si elle a eu une fuite d'urine ou de sel, donne la commandante en guise d'exemple. Pourtant, c'est l'un des signes lorsqu'une pression obstrue la circulation sanguine. De plus, les policiers qui interviendront auprès de victimes leur remettront un petit dépliant, sans logo, au cas où le conjoint violent tomberait dessus, dans lequel les symptômes médicaux à surveiller sont listés. Ils vont aussi remplir un complément d'enquête à la déclaration de la victime pour mieux documenter l'événement de strangulation et ainsi permettre au procureur de porter l'accusation qui reflète le mieux la gravité du geste posé. Un intervenant du centre d'aide aux victimes d'actes criminels se déplacera aussi pour rencontrer les victimes qui y consentent. On les incitera à consulter un médecin. Avant 2019, l'étranglement était majoritairement traité comme une infraction de voie de fait simple, explique Maître Ducasse-Atti, et donc pouvant être moins sévèrement puni. Le code criminel a été mis à jour cette année-là pour introduire l'article de voie de fait par étouffement, suffocation ou étranglement. L'infraction est désormais passible d'un maximum de 10 ans de prison. Le duo a participé à la récente enquête publique du coroner concernant les meurtres de Daya Khalaf, âgée de 42 ans, et de ses fils Adam, 4 ans, et Axil, 2 ans, survenus à Pointe-aux-Trembles en 2019. Les trois victimes ont été étranglées par Nabil Issaad, le mari de Mme Khalaf, avant qu'il aille mettre fin à ses jours dans la région de Joliette en sautant de la fenêtre d'un hôpital. L'enquête publique a révélé que l'homme avait déjà tenté d'étrangler sa femme dans le passé. La victime s'était confiée à un intervenant psychosocial, mais la police l'ignorait. Un douloureux rappel de l'importance d'agir pour mieux former tout le monde, estime la commandante et la procureure. En savoir plus. Au total, en 2023, le service de police de la ville de Montréal, SPVM, a enregistré 6520 événements liés à la violence conjugale. Cela représente 23,5% de l'ensemble des événements de crimes contre la personne enregistrés sur le territoire durant l'année. La répartition de la victimisation selon le genre demeure semblable aux années précédentes. 78,7% des victimes de violences conjugales sont des femmes et 21,3% des hommes. En 2023, 4,2% des meurtres qui se sont produits à Montréal ont été commis dans un contexte de violence conjugale. C'était « Au moins 10 femmes étranglées par semaine », un texte de Caroline Touzin, paru le 7 mai 2024 dans La Presse.
Un groupe italien queer voit le jour. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 28 avril 2024 dans le magazine Fugue. Christopher Dirado est reconnu pour les événements littéraires de Violet Hour. Il est aussi l'auteur de The Geography of Pluto, 2014, et The Family Way, 2021. Chris Dirado a mis sur pied, également, diverses activités littéraires queer anglophones rattachées au festival Métropolis Bleue et Fierté Montréal. Mais depuis des années, il essaie de faire reconnaître les queers d'origine italienne à leur propre communauté et à la communauté LGBTQ+ montréalaise et à abattre les barrières de la tradition. Après plusieurs années, enfin, sans tambour ni trompette, un groupe queer italien renaît, Italo Queer Montréal. On se promet de tenir plusieurs activités et de participer fièrement aux événements de Fierté Montréal l'été prochain. Nous avons un nom officiel, Italo Queer Montréal, mais nous sommes encore en développement. Le groupe veut prendre le temps cet été pour définir son mandat en créant de multiples occasions de rassembler les Montréalais queer avec des origines italiennes et nos amis, familles et alliés, afin qu'on puisse célébrer les intersections de nos identités. En ce moment, nous souhaitons travailler pour une présence dynamique et une célébration significative à deux des festivals majeurs du mois d'août, soit Italfest MTL et Fierté Montréal, explique Christopher Dirado, l'organisateur principal de ce groupe. La première réunion du groupe a eu lieu le mercredi 27 mars à l'Istituto Italiano di Cultura di Montréal, et plus de 30 personnes s'y sont présentées. C'était une réunion exploratoire pour voir si les gens étaient intéressés à créer ce groupe, dit-il. La réponse était oui. Mais l'avènement de ce nouveau rassemblement de queer d'origine italienne de la métropole n'est pas tombé du ciel. Bien du travail avait été effectué en amont pour permettre que des personnes LGBTQ+ italo-canadiennes se rencontrent ainsi. J'ai travaillé très fort ces deux dernières années pour créer des liens entre les communautés queer et italiennes de Montréal, souligne Christopher Dirado. Cela a commencé il y a 2 ans avec Queer and Italian in Montréal, où j'ai interviewé 3 personnes sur scène à propos de l'histoire et de l'avenir des personnes LGBTQ d'origine italienne à Montréal, Gaspare Borsellino, Steve Galluccio et V. Di Gregorio. L'événement, qui était une co-présentation avec Fierté Montréal, a été créé en réponse au manque de représentation queer dans l'exposition « Montréal et l'italienne » au musée Pointe-à-Calière en 2021. Lors de notre événement, il est ressorti qu'il est encore difficile pour les personnes queer d'origine italienne d'être acceptées par la communauté italienne et nous avions besoin de plus de visibilité dans les espaces traditionnels italiens à Montréal. Cette œuvre s'est poursuivie l'année dernière avec l'exposition de photos « Unveiling the Queer Italian-Canadian Experience » qui a eu lieu à la Casa d'Italia, le centre communautaire italien de Montréal, dans le cadre officiel d'Italfest MTL et Fierté Montréal. Parallèlement, il y a eu la projection du film documentaire « Creative Spaces – Queer and Italian-Canadian » sorti en 2021, qui a suscité beaucoup d'intérêt pour le sujet. Ce film a été réalisé par Lisha Canton, une alliée, parce qu'elle voulait créer un espace où l'homosexualité ne devait pas être cachée à la table du dimanche dans les foyers italo-canadiens. Grâce à ces événements, nous avons appris qu'il existe une communauté dynamique d'italo-canadiens, italo-québécois et Italian queer vivant à Montréal, qui souhaitent avoir des occasions de célébrer les deux parties de nos identités. Nous voulons continuer sur cette lancée cette année en créant ce nouveau groupe communautaire, rajoute-t-il. Avec sa vaste expérience en tant qu'Italo-Canadien, pourquoi pense-t-il qu'il soit encore difficile pour les queer italiens d'être acceptés, en 2024, par la communauté italienne? Je pense que c'est différent pour beaucoup de gens, et nous essayons de comprendre pourquoi c'est encore difficile, dit-il. Une chose que j'entends dire souvent par les gens, c'est qu'une grande partie de la communauté italienne de Montréal est coincée dans les années 1950, coincée à une époque où bon nombre de nos parents et grands-parents sont venus et ont immigré au Canada. Ici, il existe souvent une manière romancée et presque performative d'être italien, qui s'appuie fortement sur les notions traditionnelles de famille et de croyances religieuses. Il existe aussi, dans les milieux italiens, et depuis de nombreuses années, cette idée d'omerta, silence face aux interrogations des étrangers. Je pense que cela existe encore à bien des égards aujourd'hui et s'étend à la sexualité. Certaines familles savent peut-être que leur enfant fait partie de la communauté LGBTQ, mais elles ne veulent pas nécessairement que tout le monde le sache. Ils ne veulent pas en parler. Cela doit changer. En plus de créer le documentaire mentionné plus haut, Lisha Canton a également réalisé deux anthologies d'écrits d'Italo-Canadiens queer. Le deuxième volume, Here and Now, An Anthology of Queer Italian-Canadian Writing, volume 2, sera donc lancé à la librairie N'était-ce pas l'été? Et les prochaines étapes pour ce groupe? Comme je l'ai mentionné, nous travaillons à créer de grands événements pendant l'Italfest MTL et Fierté Montréal cette année, avec des événements plus petits d'ici là, explique Christopher Dirado. J'ai créé également une page Facebook et un compte Instagram ainsi qu'une infolettre. Si les gens souhaitent plus d'informations, ils peuvent écrire à italoqueermontréal@gmail.com. C'était « Un groupe italien queer voit le jour », un texte d'André Constantin Passiour, paru le 28 avril 2024 dans le magazine Fugue.
Cinq petits gestes faciles pour prévenir le vol de voiture. Un texte commandité, paru le 11 mai 2024 dans la presse. L'arrivée des vacances, la douce brise qui entre par les fenêtres, les rayons du soleil qui réchauffent l'horizon, pas de doute, la saison estivale est à nos portes. Or, derrière ces belles images dignes d'une carte postale, se cache une bien triste réalité. Au Canada, une voiture est volée toutes les 6 minutes. Ce n'est pas un crime aléatoire. Le fait est que les criminels canadiens, y compris le crime organisé, considèrent le vol de véhicules comme une activité à faible risque et à forte rentabilité, explique Guillaume Lamy, premier vice-président, assurance des particuliers, chez Intact. Voici 5 petits gestes faciles que vous pouvez poser pour protéger votre véhicule. 1. Rangez votre porte-clés de manière sécuritaire. Il est probable que, comme la plupart des gens, vous gardiez la clé intelligente de votre voiture sur la console qui se trouve près de la porte d'entrée. Cependant, saviez-vous que les malfaiteurs peuvent intercepter son signal émetteur et l'amplifier afin d'entrer par effraction dans votre véhicule? Cette situation est encore plus préoccupante si votre véhicule est équipé d'un dispositif de démarrage à distance, sans clé à bouton poussoir. Guillaume Lamy le confirme, l'usurpation des clés intelligentes est l'un des principaux facteurs qui explique la croissance fulgurante des vols de véhicules au pays. Il existe 2 précautions simples à prendre pour pallier ce problème. Éloigner la clé de la porte d'entrée, utiliser une boîte en métal, une pochette qui bloque les signaux d'identification par radiofréquence, RFID, ou une cage de Faraday pour bloquer son signal. 2. Dotez-vous d'une technologie de localisation. Les petits dispositifs de suivi sans fil, difficiles à détecter par les criminels, s'avèrent efficaces pour prévenir le vol et aider à retrouver les véhicules volés. Nous sommes partenaires de TAG depuis plus de 10 ans. Sa technologie a fait ses preuves, puisque le taux de récupération d'un véhicule volé est presque de 100%, explique Guillaume Lamy. De plus, la technologie de localisation peut également permettre de réaliser des économies à long terme grâce à des prix avantageux négociés avec TAG pour les conductrices et conducteurs québécois, de même qu'à des rabais anti-vol possibles sur les primes d'assurance. 3. Montrer que votre véhicule est protégé. Au Québec, les vols d'automobiles ont augmenté de 57,9% en 2023, selon le plus récent rapport fourni par Équité Association. Et nos observations démontrent que les voleurs ciblent des modèles très spécifiques dans des zones géographiques très précises, rappelle Guillaume Lamy. L'un des moyens de dissuasion les plus efficaces? Indiquez explicitement que n'entre pas qui veut dans votre voiture. Bien sûr, il y a donc la technologie anti-vol TAG qui appose une petite gravure sur les vitres avant, côté conducteur et côté passager. Néanmoins, il existe en magasin et en ligne une multitude d'accessoires anti-vol à considérer, tels que les dispositifs de blocage du volant, les caméras de tableau de bord, les alarmes sonores ou encore les verrous d'embrayage. 4. Éviter d'attirer l'attention des voleurs. Puisque le vol de véhicules est désormais considéré comme un fléau à l'échelle nationale, il est sage de vous rappeler, au moyen de l'acronyme CDEF, les règles de base en matière de prévention. Même si elles paraissent évidentes à première vue, ces notions pourraient sauver votre voiture. Choisir. Favoriser autant que possible les stationnements sécurisés ou bien éclairés. Dissimuler. Rendre hors de portée de vue tout objet de valeur, les clés de voiture ou de maison, ainsi que les appareils électroniques, y compris les modules GPS externes. Éteindre. Ne jamais laisser la voiture sans surveillance lorsque le moteur tourne ou que la clé est dans le contact, même pas 2 minutes. Fermer. Vérifier 2 fois plus tôt qu'une que les portes sont verrouillées et que les toits ouvrants, les vitres et le coffre sont bel et bien fermés au moment de quitter la voiture. 5. Comprenez votre couverture. Relire votre contrat et évaluer vos besoins, c'est la meilleure façon de vous assurer d'une couverture d'assurance automobile adéquate. Votre représentant ou représentante en assurance est là pour vous guider à travers les différentes options de couverture et les technologies de repérage qui peuvent aider à prévenir le vol de votre véhicule, même s'il s'agit, ultimement, d'un problème aux ramifications beaucoup plus larges. À ce sujet, Guillaume Lamy est sans équivoque. Le secteur de l'assurance ne peut pas s'attaquer seul à ce problème. C'est une crise nationale, avec de réelles conséquences au sein des systèmes policiers et judiciaires, notamment. La résolution nécessite une approche qui impliquera l'ensemble de la société. Pour lutter contre cette tendance, nous avons toutes et tous un rôle à jouer, affirme Guillaume Lamy. C'était 5 petits gestes faciles pour prévenir le vol de voiture, un texte commandité paru le 11 mai 2024 dans la presse.
Le Dilodide, seul opioïde dont les prescriptions sont en hausse. Un texte de Jessica Nadeau paru le 6 mai 2024 dans Le Devoir. Malgré une baisse constante des prescriptions d'opioïdes ces dernières années, celles de Dilodide ont plus que doublé depuis 2010, a pu constater Le Devoir en étudiant les chiffres de la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ. Depuis 2010, la délivrance d'ordonnances pour de l'hydromorphone, mieux connue sous son nom commercial de Dilodide, est en hausse constante. Entre 2010 et 2023, le nombre de patients qui en consomment a plus que doublé, passant de 97 000 à 201 000. Même si on prend en considération le nombre croissant de personnes bénéficiant de l'assurance médicaments de la RAMQ, on constate que la prévalence d'usage de l'hydromorphone est en augmentation, passant d'un peu moins de 3 % en 2010 à plus de 5 % en 2023. C'est le seul opioïde pour lequel on peut voir une augmentation des prescriptions. Toutes molécules confondues, le nombre de patients ayant reçu une ordonnance pour des opioïdes a augmenté de 2010 à 2016, puis s'est mis à redescendre. L'hydromorphone a toujours été l'opioïde le plus prescrit au Québec, explique le pharmacien Philippe de Grandpré. Il croit par ailleurs que plusieurs patients ont migré de l'oxycodone, le célèbre oxycontin, lié au scandale de la compagnie Purdue aux États-Unis, vers l'hydromorphone. J'ai juste l'impression que l'oxycodone a tellement mauvaise réputation que les prescripteurs ont simplement transféré vers l'hydromorphone, explique-t-il. De plus, la version longue action est, depuis 2012, considérée comme un médicament d'exception et n'est donc plus remboursée d'emblée par la RAMQ, alors que la version longue action de l'hydromorphone, elle, est toujours remboursée. Toutefois, la diminution d'usage d'oxycodone n'est pas aussi marquée que l'augmentation d'usage d'hydromorphone. Ce n'est donc pas le seul facteur, explique Anaïs Lacasse, pharmaco-épidémiologiste en douleur chronique à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui a analysé les données de la RAMQ à la demande du Devoir. Elle évoque également le vieillissement de la population. Plus on vieillit, plus on a de la douleur chronique, et plus on va avoir des gens qui vont avoir de la douleur chronique dans la société, plus l'usage des opioïdes va être important, explique-t-elle. Enfin, l'augmentation de l'usage de l'hydromorphone pourrait être en partie attribuable au nouveau programme d'approvisionnement plus sécuritaire. Ce programme, mis sur pied au début de la pandémie, vise à éviter les surdoses mortelles chez les gens qui souffrent d'un trouble lié à l'usage des opioïdes en leur fournissant des opioïdes pharmaceutiques en remplacement des drogues de rue. C'est principalement du dilodide, à très forte dose, qui leur est servi sur une base quotidienne. Le programme d'approvisionnement plus sécuritaire fait possiblement augmenter le nombre de prescriptions d'hydromorphone, ça c'est sûr, confirme le pharmacien Philippe de Grandpré. C'était le dilodide, seul opioïde dont les prescriptions sont en hausse, un texte de Jessica Nadeau, paru le 6 mai 2024 dans Le Devoir.